Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire,
l'émission de Guylaine Dubois
et Luca Bielli,
produite et réalisée par
FM+.
Bonjour à toutes et tous, bonjour Guylaine Dubois.
Bonjour Luca Bielli.
Et bienvenue pour cette émission avec notre invitée aujourd'hui, Christine Hainaut. Bienvenue.
Bonjour, bonjour.
Merci.
Alors Christine, merci d'être venue dans notre studio pour nous raconter votre vie, votre parcours, aussi ce que vous faites, ce que vous avez fait dans la vie. Alors pour commencer, comment est-ce que vous vous définiriez ?
Je me définirais, c'est très dur ça comme question pour commencer, je me définirais comme quelqu'un de spontané et j'essaye d'être toujours, enfin le plus possible, peut-être pas positive, mais au meilleur de moi-même.
D'accord, et cela est passé des activités que vous faites, vous en faites plusieurs. Justement, c'est très difficile de se définir, c'est pour ça que j'ai souhaité commencer par une question qui semble très difficile, parce que c'est dur de se dire, bah, je ne suis que, par exemple, vous êtes écrivaine, mais c'est dur de dire je suis écrivaine, ça veut dire que je ne suis pas le reste.
C'est ça.
Alors qu'on est tous constitués de plein de petites choses. Quelles sont ces petites choses ?
Alors, souvent c'est vrai qu'on me définit comme une personnalité aux multiples facettes. Moi j'essaye de faire ce que je marque dans mes livres, c'est faire ce que ton cœur te dit. Et quand j'ai envie de quelque chose, ben, j'essaye d'y aller, tout en me préservant quand même et de foncer. Donc c'est vrai que ben, j'ai eu envie d'écrire et j'ai essayé de donner un coup de pied au syndrome de l'imposteur. Et donc j'ai écrit, et en particulier un roman fort. Là, c'est mon dernier coup de cœur, c'est je vais absolument écrire des albums jeunesse. Et donc je me suis mis à la peinture, à l'aquarelle. Et donc je prends des cours d'aquarelle et en autodidacte, je travaille sur les personnages de manga. Donc voilà, je fais beaucoup de choses et dès que j'ai envie de faire un truc, j'essaye de ne pas me mettre de barrière.
Vous êtes en train de dire finalement que tout est possible quand on a cette volonté, ce dynamisme.
J'ai plutôt envie de dire que tout est possible si on retire toutes les barrières qui ne sont que psychologiques de la société, que la société nous impose. Et moi j'ai envie de dire, c'est finalement ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent, et en particulier mais aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, c'est les barrières, elles ne sont que psychologiques. T'as un rêve, accroche-toi, fonce.
Alors, vous avez évoqué un roman. Peut-être on pourrait tout de suite donner le titre.
Alors, mon gros roman, c'est « Moi, j'ai pas le cancer ». C'est un roman inspiré donc, de mon histoire que j'ai travaillé après une masterclass avec Bernard Werber.
L'écrivain, Bernard Werber, celui des fourmis.
C'est ça.
D'accord. Putain, on a ses classes aujourd'hui. Hein.
On passe le bonjour à Bernard Werber, si nous écoutons.
Voilà. Et, salut Bernard.
Donc, sur ce côté qui me semble aussi tout est possible, lié aussi à l'enfance, au don aussi à l'autre. Vous-même, enfant, vous aviez déjà cassé ces codes, déjà très jeune, à faire des choses qui semblaient un peu fous pour quelqu'un à cet âge ?
Oui, et en fait, je ne m'en rendais pas compte parce que c'était naturel. Moi, dès la sixième, j'ai monté un groupe de jeunes dans le cadre de ma pratique religieuse de l'époque. Et j'avais monté un groupe de service missionnaire des jeunes. Et ce qui était dingue, c'est ce dont on parlait, mais ce qui est vraiment dingue, et je m'en rends compte aujourd'hui, surtout face aux élèves que j'ai, c'est qu'à l'âge donc, d'un élève de 6e, 11 ans, je me suis retrouvée à monter une expo sur tous les pays du monde dans l'église dans laquelle j'étais, et je me suis mise à acheter 1 kilo de riz, à le vendre au village, 5 francs, à vendre des morceaux de paquets de riz, et à le remettre pour le service missionnaire des jeunes. Mmh. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais... Wow, si tous les jeunes faisaient ça aujourd'hui, ce serait carrément génial, quoi.
Et c'est vrai qu'on laisse tous, quelque part, avec notre histoire, des petites perles, et on peut remonter le temps en se disant, mais on retrouve là une ouverture vers le monde, par ce choix international. C'est quelque chose que vous avez continué par la suite ?
Oui, et je pense que c'est quelque chose. Bon, là, je reviens du Mexique, j'ai mon fils qui habite au Mexique, ma fille en Australie actuellement, donc je pense qu'en plus, je leur ai transmis ça, et c'est vrai que cet apport de l'autre, cet apport des autres, de cultures différentes, m'a toujours marquée. J'ai aussi, avec mes élèves, monté un projet Comenius. À l'époque, on disait Comenius. Avec ma compagnie de danse, quand j'étais danseuse et chorégraphe, on faisait des spectacles aussi à l'international. J'ai toujours aimé apprendre les langues et c'est vrai que j'ai toujours été tournée beaucoup vers les autres, mais pas juste les autres de notre culture, et aussi énormément vers les autres cultures. Et je travaille d'ailleurs aujourd'hui en REP+.
Et donc, vous nous avez vous avez des élèves, vous travaillez en REP+, vous êtes enseignante.
Oui, je suis aussi enseignante.
Et vous avez fait ça toute votre vie ou vous avez une autre vie avant?
Non, j'ai eu une autre vie avant. J'étais danseuse et chorégraphe pendant 20 ans. Et en même temps, j'avais un métier de professeur de PS au collège et à l'école primaire.
Plusieurs vies en une. Hein.
Donc on pourrait commencer par... parce qu'on est parti à une quête d'ouverture au monde. Et donc votre premier métier, celui de danseuse, si vous souhaitez nous en parler.
Oui, ben, en fait, c'est un métier de cœur. C'est un métier où quand on vous dit, quand vous êtes petit, vous dites « Ah, plus tard, je serai danseuse ». On dit « Ben non, c'est pas un métier. Comme écrivain, c'est pas un métier. » Enfin, il y a des tas de métiers et on dit « Ben non, c'est pas un métier ». Et ça m'est venu parce qu'en fait, quand j'étais petite, ma professeure de danse, elle nous faisait pas faire des spectacles. Enfin, elle nous faisait faire des spectacles, mais pas des grandes histoires. Et moi, je disais, mais pourquoi on ne fait pas ça? Elle dit, mais non, vous n'êtes pas assez fort. Et moi, ça m'agaçait, parce que je pensais sincèrement, et je le pense toujours aujourd'hui, qu'on peut transmettre des émotions, qu'on peut faire passer des émotions et des messages, quel que soit le niveau. On n'est pas obligé d'être capable de faire 12 pirouettes, c'est des tours sur un pied quand on est danseuse, pour donner de l'émotion. Un seul tour, avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour, peut donner énormément d'émotions au public. Et quand moi j'ai été danseuse, j'ai eu à cœur de monter une compagnie pour justement monter des spectacles. Même si on n'était pas à l'Opéra de Paris, on pouvait transmettre de l'émotion avec des chorégraphies sur des thèmes très nombreux, aussi variés que Jeanne d'Arc, aussi variés que Jacques Brel, que Casse-Noisette, pour partager des émotions à tous et à toutes, et aussi bien aux danseuses qu'aux spectateurs.
Et c'est une activité que vous avez pratiquée pendant combien de temps?
Plus de 20 ans.
Et vous avez donc changé de cap?
J'ai changé de cap, mais malgré tout, ces compétences que j'ai acquises dans mes autres vies, je les ai utilisées à l'école. C'est-à-dire que quand j'ai été directrice d'école, j'ai travaillé aussi avec le conservatoire de danse de Privas, j'étais en Ardèche, et j'ai monté un spectacle avec le conservatoire. Et tant et si bien qu'on se demandait de quelle école de danse venaient mes élèves de CM1, CM2, qui en fait étaient en plus des élèves de REP+.
Oui, quelque part, vous avez apporté cette magie de vos vies passées aux gens que vous rencontriez. Et si vous souhaitez nous dire aussi, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous soyez passé de la danse au fait d'enseigner?
Alors l'élément déclencheur, ça a été un divorce difficile. Ça a été une maman qui se retrouve seule avec deux enfants et qui gagne très très bien sa vie, qui a les moyens de payer une nounou, qui a les moyens de payer une femme de ménage et qui se dit qu'est-ce que je fais de l'amour de mes enfants et qui se dit comment je gère ma vie. Et je me suis donc assise face à moi-même. Et entre l'amour de mes enfants et le temps à passer avec eux et l'argent et l'amour du métier, j'ai choisi de passer beaucoup de temps avec mes enfants et de passer le concours de professeur des écoles à cette époque dans l'Académie de Grenoble où on avait 6000 candidats pour 300 postes. Donc un concours qui était très très dur et je me suis dit c'est le seul moyen que j'ai pour pouvoir passer du temps et gérer, pas gérer mais passer du temps avec mes enfants et leur partager de l'amour.
Alors peut-être moi j'aimerais bien revenir sur votre enfance. C'était quoi l'enfance de Christine Hainaut?
L'enfance de Christine Hainaut, c'était dans un petit village qui s'appelait Milonfos, un village de 500 habitants. C'était une enfant d'ouvrier, c'était une enfant qui finalement, dès qu'elle allait dans le village d'à côté, elle avait l'impression d'avoir déjà fait le tour du monde. Et c'est une enfant qui lisait énormément, qui se réfugiait énormément dans les livres. Je lisais un livre par jour à l'époque, quand les bibliothèques n'étaient pas aussi faciles d'accès qu'aujourd'hui. Donc, ce n'était pas toujours compliqué. Et je trouvais normal en CM1 d'avoir lu tout Jules Verne. Alors qu'en fait, maintenant que je suis enseignante, je me rends compte que tous mes élèves de CM1, CM2 ne lisent pas Jules Verne en entier. Ce
n'est pas la même génération peut-être aussi, mais... Harry Potter, ils ont lu les 4 volumes. Mais...
Non, pas tous, pas tous les CM1, ouais. CM2, parce que c'est des gros livres.
Mais c'est vrai que vous parlez de Jules Verne. Moi, ça me fait penser. Jules Verne, c'est quelque chose qui s'est transmis de. Moi, bon, parler d'un petit peu de moi. Mon grand-père m'a fait lire Jules Verne quand j'étais jeune, à peu près à cette période-là. Et je me rappelle que ça vient de lui. Tiens, tu devrais lire ce livre. Parce que lui-même a traversé un voyage mais merveilleux avec, grâce à Jules Verne.
C'est ça.
Mais si les parents des enfants d'aujourd'hui n'ont pas lu Jules Verne ni leurs grands-parents, la transmission est compliquée. Et donc, Christine, vous arrivez, vous pouvez aussi faire lire Jules Verne à ceux qui seront le terreau fertile à cette graine qui pourrait pousser.
Oui. Enfin, moi, pourquoi j'avais choisi Jules Verne ? Parce que c'était un gros livre de 700 ou 800 pages. Quoi. Ouais. J'aimais les gros livres. J'aime toujours d'ailleurs les gros livres. J'achète un livre d'abord parce qu'il est gros.
C'est ça. Que le plaisir dure longtemps.
Bah, un livre de 100 pages, en une heure, il est bouclé. C'est ça, un livre de 800 pages. On n'est pas allé assez profond dans l'histoire.
Ouais. Ah, c'est plutôt ça, la profondeur des textes, plutôt avant le plaisir, finalement.
Bah, quand on lit un livre de 600 pages sur un voyage, c'est un petit peu ça, Guylaine. On voyage autour du monde, on voyage plus longtemps, quoi. Sinon, le voyage est trop court.
Voilà.
Et donc, votre métier d'enseignant vous a aussi permis de voyager, de voir plein de choses. Parce que donc vous étiez enseignante, mais vous avez eu d'autres responsabilités au sein de l'éducation nationale à un moment donné, qui vous a permis de vous ouvrir plus ou moins.
J'étais en Ulysse, j'étais responsable d'une classe Ulysse, intégration des enfants en situation de handicap. J'ai été aussi maîtresse E, donc les enfants en difficulté. J'ai été en maternelle, j'étais en classe multiple niveau et j'ai aussi été directrice d'école pendant plus de 10 ans. Et à ce moment-là, j'étais en poste fixe et c'est vrai que c'est là où j'ai eu à cœur de monter des projets avec ma classe de CM1, CM2 et avec l'école.
Et c'était quoi comme projet que vous avez monté ?
Alors j'ai eu la chance de rencontrer un peu par hasard le fils d'Arun Taziev. Moi, je voulais monter un projet à l'international. Et en le rencontrant, donc quand même très fan d'Arun Taziev, parce que ceux de ma génération, c'était vraiment le rêve, les voyages, etc. Et donc un jour, j'ai rencontré le fils d'Arun Taziev. Il m'a apporté les écoles à l'étranger. Moi, j'ai apporté tout le côté pédagogique. J'ai monté un projet Communus qui a été validé. Et c'est comme ça que j'ai fait voyager mes élèves au travers mes voyages pédagogiques. Et on a fait venir des enfants d'autres pays dans une école REP plus où on avait déjà de multiples nationalités et un multiculturalisme.
Oui, on dit souvent qu'il y a des rencontres clés dans une vie. Comment est-ce que vous le percevez, cette rencontre, les souvenirs que ça vous a laissés ?
Ah ben, rencontrer le fils d'Arun Taziev, c'est magique, c'est incroyable, c'est rencontrer une personnalité hors du commun, on ne peut pas l'oublier. Quand Frédéric parle, c'est avoir la bouche ouverte et se dire ouais, « c'est quelqu'un d'extraordinaire ». C'est à un moment, je disais, c'est ce que j'ai marqué dans la préface de mon livre, parce qu'il m'a offert l'honneur d'écrire un livre sur son papa à l'usage des jeunes. C'est mon presque père, mon plus que père. Il m'a vraiment beaucoup apporté. C'est une figure incroyable qui donne vraiment à être connue pour tous et toutes.
C'est quelqu'un qui était très proche donc de la nature aussi, des plantes, de tout l'environnement.
C'est quelqu'un qui est très proche des valeurs universelles. Donc forcément de la nature et de l'environnement. C'est quelqu'un qui est très proche des valeurs humaines, qui est dans une droiture incroyable, qui ne possède rien de matériel, mais qui ne possède que des valeurs immuables et des valeurs éternelles et universelles. Et c'est vraiment une chance incroyable de rencontrer quelqu'un comme ça.
Moi, ce que j'entends, Christine Hainaut, c'est la multiplicité et l'abondance des projets, des voyages, des activités. Comment est-ce que ça vous est venu, ça ? Vous avez une petite idée sur cette sensation-là de faire encore plus et toujours et de vous nourrir de tout ça ?
Ah ben, j'en sais pas. Je sais pas du tout, c'est en moi. C'est en moi et en fait, c'est dans mon corps, c'est dans ma tête. Là, par exemple, sur ma série d'albums jeunesse, c'est dans ma tête. Et donc, il faut que je travaille. Et pour avoir les compétences pour pouvoir sortir ces livres, il fallait que je travaille le dessin. Par hasard, entre guillemets ou pas, j'ai eu la chance de rencontrer une prof absolument incroyable. Sur le plateau des plateaux de l'Hérault là-bas et donc une fois par mois on se rencontre avec trois autres personnes et elles donnent des cours qui me font avancer à une vitesse grand V et qui me permettent déjà de commencer à créer mes personnages parce que l'histoire est dans ma tête et quand j'étais danseuse c'était bien pareil, mes spectacles, mes projets ils sont dans ma tête pendant plusieurs années, ils mûrissent, je fais beaucoup de veille, beaucoup de recherches pour enrichir, nourrir et avoir plein d'informations sur le sujet. Et une fois que c'est prêt, ce que je disais à Lucas, j'ai un bouquin sur les violences faites aux femmes qui est dans ma tête, mais depuis des années. Donc je nourris, je cherche, j'ai des notes. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile de, tiens, je lis un article, hop, je le range dans une note. Comme ça, après, je le ressors. Et là, il y a un mois, ben, je ne sais pas pourquoi, je l'ai commencé. J'ai fait les 30 premières pages, mais elles sont sorties sans que je réfléchisse. Et maintenant, je travaille, je reprends mes cours avec Bernard Werber et je retravaille toute l'architecture pour qu'il soit hyper addictif, comme j'aime lire et comme j'ai envie que les gens lisent, pour que les gens aient envie de le lire, mais tout en ayant cette opportunité de pouvoir offrir aux autres des clés pour aller vers leur mieux-être.
Moi, ce que je trouve aussi incroyable dans ce parcours, même encore aujourd'hui, c'est que vous êtes civilement professeur, mais dans votre vie, vous êtes accompagné par plein de professeurs. Que ce soit Bernard Werber, que ce soit justement le fils d'Arun Taziev, ou même cette collègue mais qui vous enseigne comment dessiner. Tout ça donc dans ce but finalement de s'épanouir, de pouvoir transmettre ce qu'on est vraiment au plus profond de soi.
Ce qui est dingue en fait dans ma vie, alors, je ne sais pas comment c'est celle des autres, parce que finalement, c'est la mienne que je connais le mieux. Mais ce qui est dingue, c'est que les choses s'enchaînent, les choses s'emboîtent. Et qu'à un moment, dans mes romans, je parle d'ange. Donc après, on définira ce qu'on veut, le destin, l'ange, ou bien c'est normal. Puis là, je vois, il y a un petit ange, tiens, dans le bureau, c'est rigolo. Et c'est que sur mon chemin de vie, à un moment, j'ai une idée et hop, sur ce chemin, il y a des gens qui viennent, qui sont capables d'apporter ce dont j'ai besoin pour pouvoir transmettre. Et c'est vrai que cette prof de dessin, j'y pensais encore hier, mais elle est incroyable. Et j'ai essayé un autre cours en route avec une autre personne qui m'apportait rien du tout. Et qui m'a juste apporté le fait de me dire, bah, celle-là, elle est vraiment géniale, change pas, quoi. Et c'est vrai, comme tu dis, Lucas, c'est qu'il y a des choses comme ça qui arrivent sur le chemin et qui s'emboîtent. Et au bon moment. Et on ne sait pas pourquoi. Enfin, moi, je ne sais pas.
Et c'est vrai que ce soit au cours de dialogue ou dans la musique ou même dans l'art qu'on fait, il y a des moments où il ne se passe rien, il y a des moments où il y a des choses qui ne se connectent pas, comme une espèce de silence. Ce qui me permet de vous introduire la prochaine musique que vous avez choisie, c'est Simon & Garfunkel, Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking.
people writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered in the sound of silence.
De retour sur Radio Divan avec Guylaine Dubois.
Toujours là.
Alors, Christine, vous avez choisi ce morceau. Est-ce qu'il a une raison ?
C'est un morceau que j'écoute depuis que je dois avoir 16 ou 17 ans, au moment où on avait les cassettes. Et je ne sais même pas, et je sais même pas si j'ai envie de savoir ce que disent les paroles finalement. Je ne sais pas si c'est important, mais je trouve que la musicalité... à chaque fois, en tout cas, ça me transporte, ça va jusqu'au profond de moi-même et je trouve que cette musicalité, elle est juste incroyable.
Oui, ça, moi aussi, ça m'évoque l'adolescence. Enfin, Lucas n'était pas né, je crois.
Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une musique où on se laisse un peu emporter, c'est comme ça. Si on était sur une petite barque, légèrement balottée sur les flots.
C'est... Ouais.
Et on va quelque part, on sait qu'on va être bien là où on va, même sans savoir où on va.
Ouais.
Et d'où peut-être que le fait de ne pas comprendre les paroles importe peu, comme peu importe de connaître la destination, tant qu'on apprécie le chemin. Et donc parlant de chemin, vous avez beaucoup cheminé dans votre vie. Vous êtes quelque part toujours en mouvement, mais de deux sortes. Bon, il y a le vélo aussi, dont nous pourrons parler tout à l'heure, et écrivaine. Quand est-ce que ça a commencé, cette passion pour l'écriture ?
Je pense qu'à partir du moment où j'ai pu tenir un crayon, où j'ai toute petite, mais je pense que j'étais vraiment petite, hein. J'avais créé un poème et je sais même pas si j'avais été au CP à ce moment-là. Et ce poème, je l'ai toujours en tête. Il fera partie d'un recueil de poèmes bientôt. Et donc, je pense que j'ai toujours eu envie d'écrire. Par contre, j'ai été noyée par le symbole, le syndrome de l'imposteur. Qui me disait, ah non, c'est bon, t'es pas écrivaine, t'y arriveras pas. C'est ce syndrome de l'imposteur là, qui noie chacun dans des incertitudes et des certitudes erronées.
Cette petite voix qui empêche aux gens de faire les choses sous peine d'une sorte de châtiment qui sortirait de nulle part et qui vous foudroierait, et donc vous restez un petit peu dans une sorte de tétanie qui vous empêche de faire des choses.
Oui, et puis surtout, ben, tu n'y arriveras pas, même pas le châtiment, c'est se dire, ben, attends, tu n'as pas les compétences, tu n'y arriveras pas, en quoi tu es légitime. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, ben, à partir du moment où tu y penses, tu es légitime, et puis finalement, le regard des autres, peu importe, c'est ton regard sur toi et sur toi-même qui est important. Donc, si tu as envie de le faire, ben, c'est que tu dois le faire, alors fonce.
Et il y a eu un élément déclencheur qui vous a fait vraiment vous y mettre ?
Je pense qu'il y a eu plusieurs éléments, mais il y a en tout cas un élément assez incroyable. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré le fils d'Aroun Taziev, on s'est rencontrés dans un salon du livre pour la première fois, à la ferme Bourlatier en Ardèche, qui est une ferme incroyable qui a été restaurée, et où c'est vraiment un des plus gros salons du livre de la région. Et on s'est rencontrés là, et donc après nos deux heures tumultueuses de projet, moi je suis montée à l'étage et j'ai été acheter des livres, bien sûr. Et je suis tombée devant une écrivaine dont j'ai oublié le nom là maintenant, mais qui avait écrit un livre qui s'appelait L'enfant coquelicot et que j'ai acheté. Elle avait une grande table ronde avec plein de livres. Et je vois ces livres et je lui dis, waouh, c'est génial, j'aimerais tellement être comme vous. Et elle me dit, ben foncez. Je dis, ben non, moi je ne peux pas. Mais si, elle dit, allez-y, allez-y, allez-y. Et ce qui est étonnant, c'est que 2 ans plus tard, je me suis retrouvée dans ce salon du livre, à côté du fils d'Haroun Taziev, avec mon livre, Si Haroun Taziev m'était compté. Mais ce n'est pas tout. Donc voilà, le temps continue. Et donc, pour plein de raisons, j'écris un roman qui s'appelle « Moi, j'ai pas le cancer », qui fait 500 pages. Et juste avant mon tour de France à vélo. Et là, je fais mon premier salon du livre dans mon fief, à Privas, où j'habitais à l'époque. Et j'ai une grande table ronde. Et à côté, il y a une table vide. C'était sur 2 jours. Personne ne me dit qui est là. Moi, c'est mon premier salon, donc un peu stressée, avec mon roman que je sortais pour la première fois, donc mes tripes sur la table à la portée de tout le monde. Et le lendemain matin, je vois arriver une dame, et c'était l'autrice de L'enfant coquelicot. J'en ai encore les larmes aux yeux d'ailleurs, et j'en aurais pleuré. Et donc, je lui rappelle que je la remercie, parce que quelque part, elle a été une petite graine qui m'a permis de dire, bah, vas-y, fonce.
Elle vous a autorisé finalement à
peut-être
aller.
Peut-être que c'est une personne qui m'a aussi autorisé. Ouais. Et... ah, voilà.
Bravo.
Oui, quelque part, elle a su participer à l'enterrement de ce que vous appeliez le
syndrome de l'imposteur.
Le syndrome de l'imposteur. Merci, Guylaine. Ah. Et donc, suite à ce livre, vous avez aussi mis les choses en route, j'ai envie de dire, quelque part. Et donc, vous avez fait beaucoup de vélo.
Oui, parce que quand j'étais prof de sport, j'étais en fac des sports. Et un été, quand on revient, là voilà, on se dit tout ça. Bah tiens, qu'est-ce que t'as fait cet été? Moi, je fais ça, moi j'ai fait ça. Et une amie qui était option foot, je m'en souviens, elle dit, moi j'ai fait le Tour de France à vélo avec mon copain. Waouh. Je trouvais ça dingue. Et pendant 20 ans, j'ai demandé à plein de gens, tiens, tu ferais pas ce bout de route avec moi? Tiens, tu ferais pas ce bout de route avec moi? Et à chaque fois, on me disait, mais ça va pas, t'es dingo, on peut pas y arriver, c'est n'importe quoi.
À nouveau des barrages, à nouveau des barrières.
C'est ça, mais non, mais voilà, mais non, mais non. Et quand j'ai écrit le roman, j'ai voulu aider des associations qui contribuaient à lutter contre le cancer pédiatrique. Et il s'avère que sans le faire exprès en tout cas, je me suis aperçue au bout de 6 mois qu'elles étaient toutes sur une ligne droite qui partait de Montpellier à Lille et qui traversait la France. Et donc un jour, j'ai eu une idée dingo. Je me suis dit, je vais aller les voir à vélo. Et c'était déjà hyper, hyper dingo pour moi. Et pour m'entraîner, je m'étais dit, je vais aller voir ma sœur à Bordeaux avec une copine. 500 kilomètres, donc c'était raisonnable, en une semaine, ça se faisait. Et 2 jours avant le départ, on a été confinés. Mmh. Et là, je me retrouve devant ma carte de France, en train de pleurer, en train de me dire, mais mince, ils m'ont bouffé mon projet, quoi. Je partais juste à vélo. Et on n'avait plus le droit de changer de département. Et c'est là où je me suis dit, soyons dingues, je vais faire le Tour de France à vélo. À l'âge de 51 ou 52 ans.
Et c'est fait?
Ah oui, j'en ai fait 2.
Ah ouais.
Un en 32 jours et un en 48 jours.
Et vous aviez des étapes en particulier?
Donc j'avais comme étape particulière d'aller voir ces associations, plus mes amis et ma famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été encore une fois assez dingue. C'est que des amis du vélo ont partagé sur les réseaux sociaux, qui ont partagé sur leurs réseaux sociaux. Et finalement, une nana de Paris a contacté un YouTuber qui est venu m'interviewer à Montpellier. Donc un YouTuber qui a beaucoup de follow. Et c'est comme ça que plein d'associations de toute la France, plein de groupes de vélos, et particulièrement là, le retour du dernier voyage de Saint-Just d'Ardèche à Montpellier, il y a dû avoir près de 1000 vélos qui m'ont accompagnée, qui se sont relayés pour que je ne sois jamais toute seule.
Wow.
Et donc il y a eu ce voyage que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'osais jamais faire parce qu'on me disait que j'étais dingue et que j'avais trouvé personne pour le faire. Le jour où je me suis dit, tant pis, j'y vais toute seule. Ouais. J'ai plein de monde qui m'a accompagnée en me disant c'est génial ce que tu fais. Ouais. Et ce qui est génial, ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent merci Christine parce que grâce à toi, Maintenant, j'ose y aller tout seul. J'ose y aller toute seule, que ça soit des hommes qui ont 75 ans, là j'ai dans ma tête un ami, ou que ça soit des nanas qui ont 20, 30 ou 40 ans. Elles disent, bah, grâce à toi, maintenant, j'ose aussi y aller toute seule. Et ça, c'est génial.
Et on retrouve aussi ce côté Forrest Gump, un peu dans cette étape.
Ouais, c'est Forrest Gump, la première phrase de mon Facebook, c'est la phrase de Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Et c'est ça en fait, finalement, on a des certitudes, hein. Moi ma certitude à 20 ans, c'est que j'habiterai dans le nord, que j'élèverai mes enfants dans la maison que j'avais fait bâtir, que mes petits-enfants viendraient me voir dans cette même maison et que je bougerai jamais quoi. 20 ans après, je suis à Montpellier, j'ai changé de métier, mes enfants sont partout, j'ai pas de maison, je vis en appart et je suis très contente comme ça. Ouais. Donc, comme dit Gabin, je sais, à 20 ans je savais, à 30 ans je savais, maintenant je sais qu'on ne sait jamais.
Alors, je vous propose quand même qu'on fasse un petit entre-deux, entre l'âge de Gabin et l'âge que vous aviez à 20 ans, en vous projetant justement sur ce que vous venez de nous dire, en écoutant une chanson d'Angèle,
ouais.
Que du love.
Une quête, j'attends la défaite d'une histoire muette. Je t'écris toutes ces lettres car je le garde en tête. Tu viendras peut-être.
I wish you would care if you're too scared today. You will lose me then. I love you as hell.
Que du love.
Back in time and I might cross the line. I want you to be mine.
De retour sur Radio Divan, Guylaine Dubois, vous êtes toujours là.
Christine et nous aussi.
Oui.
Donc nous avons écouté Que du love. Que du love. Et votre parcours est aussi fait de, certes, d'embûches, de difficultés, de choses très lourdes, mais vous semez derrière vous aussi beaucoup de ce love.
Mais en tout cas, j'essaie, je me dis qu'il faut continuer, quoi qu'il arrive, tomber, comme on dit, tomber 7, mais se relever 8. C'était Labro dans son bouquin qui disait ça. Et je pense que, on tombe. Et on s'égratigne. Mais l'important, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais de tout ça? Où j'avance? Et qu'est-ce que j'ai gagné? Parce que finalement, on gagne aussi des choses. Et qu'est-ce que je peux partager pour que les autres gagnent si un jour, ils se retrouvent la tête par terre, complètement écrasés par la vie, quoi. Et finalement, ça arrive très souvent pour chacun d'entre nous et chacune. Et donc, de partager toutes les clés, toutes les petites graines pour que ben, ça puisse justement semer de l'amour, des fleurs et aussi des petites clés pour que chacun puisse aller vers son mieux-être ben, un peu plus rapidement peut-être que moi je l'ai été. Et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment une clé à ça qui permet justement de diffuser et de partager au lieu de rester tout seul. Avant, on restait beaucoup plus tout seul et si on ne pouvait pas parler, si on n'avait personne pour parler, ben, on ne savait pas si ce qu'on pensait était juste. Aujourd'hui, on peut partager, on peut se dire « Tiens, mais en fait, ça, ce n'est pas normal. » Ou « Merci pour cette clé, ça va m'aider à avancer. » En fait, l'idée, c'est ça, Lucas, c'est de se dire « Bah ouais, il s'est passé des trucs vraiment durs, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux partager aux autres pour justement aller chacun vers son mieux-être ?»
Et quelque part, ne pas vieillir en vain.
Mais en fait, je pense que vieillir, tu vois, tu me dis vieillir. Alors bien sûr, mon corps vieillit, mais j'y pensais encore ce matin. Et je me dis, mais finalement, je pense qu'il y en a, ils sont vieux à 15 ans ou à 20 ans, quoi. Vieillir, c'est un état d'être. Et bien sûr que mon corps vieillit et que j'ai des rides, je ne peux plus faire les choses comme je voulais, j'ai pris du poids. Mais je pense que l'important, c'est de se dire, c'est de rester ce qu'on peut dire jeune, enfin de rester dynamique et actif. Et de continuer de rêver, quel que soit notre âge, pour avancer, quoi.
Donc, quelque part, prendre de l'âge, mais ne pas vieillir.
Prendre de la sagesse.
Vous l'interprétez comme vous voulez.
Non, moi, je vieillis. Mmh. En fait, c'est ambigu, quoi. On pourrait refaire un sujet, je pense, là-dessus.
Bien sûr, mais avec grand plaisir.
Parce que c'est... Qu'est-ce que c'est que vieillir, quoi.
Ne pas laisser le temps passer sans justement.
Écoute, un exemple tout simple avec des collègues de boulot. On fait une soirée régulièrement. Si elles écoutent, elles vont rigoler. Et moi, je leur ai proposé d'aller au social bar à Montpellier. Mmh. Elles sont toutes plus jeunes que moi. Il y en a qui ont moins de 30 ans. Elles m'ont dit « Christine, c'est un truc de jeune. Même moi, je ne me retrouve pas. » Je dis « Wow, les... Enfin, mince, le social bar. Ouais, mais toi, tu vas... » Parce que moi, je reviens du Mexique et on a dormi en auberge de jeunesse. « Ouais, mais toi, tu arrives à aller dormir en auberge de jeunesse. » Bah oui. Et finalement, bah, on a regardé le planning. Donc, elle voulait aller dans un autre lieu à Montpellier parce que c'était plus vieux. Et finalement, j'ai réussi à les faire venir au social bar parce qu'il y a une soirée stand-up. Je fais quand même, on va s'amuser, une soirée stand-up. Et finalement, souvent, elles disent, bah, c'est toi qui nous porte, c'est toi qui nous mène. Et
vous avez réussi à.
Et bah, finalement, on va au social bar.
Ce syndrome de l'imposteur de ne pas aller au social bar.
Mais parce qu'on est trop vieux, quoi. Enfin, mais non, enfin, ça veut dire quoi? On est trop vieux pour aller à un endroit.
Les représentations sociales sont fortes.
C'est terrible.
Voilà.
Et même chez les jeunes, là, je vous dis, celle qui a dit ça, elle, je crois qu'elle a 27 ans. Et non. On peut y aller. Moi, mes enfants m'ont amené à l'Australian. Tous ceux qui habitent Montpellier connaissent. Bon, je ne dis pas que j'y retournerai par plaisir, mais bon, voilà, on a passé quelques heures à l'Australian.
Donc, si nous devions conclure ensemble cette émission, pour ouvrir dans les 1 ou 2 minutes qui nous restent, Christine, je vous laisse nous dire. Voilà, un peu votre actualité, ce que nous pouvons, où nous pouvons vous retrouver.
Donc vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, et puis aussi sur mon blog christineheno.com. Vous y trouverez des articles mieux-être, justement, j'ai beaucoup travaillé sur le mieux-être et le bien-être, et sur le sujet plus ma littérature. Et donc là, je suis en train de travailler sur un nouveau roman sur les violences faites aux femmes et sur une série de littérature jeunesse pour que le mieux-être et l'ouverture ne soient pas que pour les adultes, mais que les enfants, très tôt, on puisse les convaincre que le mieux-être, c'est maintenant et que la non-violence, c'est maintenant aussi.
Eh bien oui, moi je sors de cette émission, Christine, enrichie par les rencontres que vous nous avez apportées et puis aussi le mouvement que vous donnez dans votre vie. Je crois que aussi, peut-être pour moi, l'antagonisme du vieillissement, ce serait le mouvement. Être en mouvement mène à garder un esprit jeune, si on veut rester dans cette catégorie-là, jeune, âge, etc. Mais en tout cas, le mouvement, de ce que j'entends chez vous, est vraiment propice à la mobilité, à la jeunesse.
Merci.
Bien, chères auditrices, chers auditeurs, merci. Merci Guylaine Dubois.
Merci Lucas Bielli.
Merci Christine Henault d'être
avec nous. Merci à vous deux, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+.
Sur une musique originale de William Balfour,
à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.